BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot, le mag. 1 million de CV, c'est ce que reçoit le groupe L'Oréal par an. Comment s'effectue le tri? Comment sortir du lot? On sera avec Eva Azoulay, directrice du recrutement Monde chez L'Oréal. Elle nous dévoilera les coulisses du recrutement du groupe. On fera ensuite un gros point psy avec celui qui nous accompagne régulièrement dans l'émission. C'est Eric Albert, psychiatre, coach de dirigeant et fondateur du cabinet de conseil YouSide. Il paraît que certains salariés sont très très bien confinés. On lui demandera ce que ça veut dire. Et puis, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, nous a prévenu, les moments de convivialité en entreprise, c'est carrément interdit. C'est dommage, mais on a quand même des solutions. On verra ça avec Renaud Selingman, il est fondateur du Social Bar. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Eva Azoulay. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice du recrutement Monde chez L'Oréal. L'Oréal, je le disais, c'est à peu près 1 million de CV reçus par an, donc beaucoup de déçus. Votre travail à vous, c'est quoi? C'est de dire non?
Non, alors déjà...
Poliment?
Vous avez raison, on touche à un point qui est fondamental. La façon dont on va gérer les réponses négatives, c'est devenu un enjeu majeur, parce qu'il y a un enjeu d'image. Donc on va y porter une attention particulière, bien plus qu'avant. Nous, ça fait déjà 3 ans qu'on s'intéresse au sujet de l'expérience candidat, comme on dit. Moi, j'ai une personne dans mon équipe qui s'y attelle à temps plein. Puis on a développé des nouvelles techniques. On s'inspire beaucoup de ce qu'a fait le business sur la customer experience. En fait, on fait des ponts avec l'expérience candidat et on mesure. C'est la grande différence avec le passé, c'est que maintenant, on mesure l'expérience candidat. On demande aux candidats, finalement, de nous dire quelle est leur satisfaction du processus de recrutement qu'ils ont eu chez L'Oréal.
Et alors, c'était quoi leur conclusion à ces candidats refoulés? Fallait améliorer quoi chez vous?
Alors, souvent, c'est autour du feedback. Le feedback n'est pas toujours bien fait. Un recruteur ne va pas toujours soit prendre le temps nécessaire de faire un feedback correctement à un candidat, ou va le faire trop tardivement parfois. C'est le point sur lequel on a encore beaucoup de progrès à faire. Ce n'est pas évident pour un recruteur de faire une réponse négative, parce que ce n'est pas toujours très agréable de dire non à quelqu'un. Mais il faut le faire, parce que c'est une question de respect. Et c'est quelque chose qui est attendu par les candidats qui veulent s'améliorer.
Donc, mais tout le monde a le droit à une réponse d'humain, parce qu'avec 1 million de CV, j'imagine qu'il y a des robots qui trient là-dedans.
Non, il n'y a pas de robots qui trient. Alors, oui, on fait appel à l'intelligence artificielle, on a des outils.
Pour attirer des chatbots, etc.
Voilà, on a un chatbot, on a une solution dite de matching culturel, on va y revenir tout à l'heure. Mais en fait, le robot ne trie pas tout seul. Et déjà, le robot ne trie pas, n'utilise pas le CV, en fait. Donc, le chatbot va interagir, en fait, avec le candidat pour lui poser des questions sur l'éligibilité du candidat pour le poste. Donc, c'est les fameux prérequis. Mm-hmm. Est-ce que tu es disponible à telle date? Est-ce que tu as une autorisation de travail? Est-ce que tu as vu que le job était situé à tel endroit, dans telle ville, etc. Et la solution de matching culturel non plus ne va pas trier tout seul. Ces solutions, en fait, elles permettent d'aller au-delà du CV. C'est tout l'intérêt, en fait, parce que le CV, c'est un faux ami, hein, recrutement, quand même. Et en plus, ces solutions-là, elles ne vont pas sélectionner toutes seules. C'est-à-dire qu'elles vont être un outil d'aide à la décision au recruteur. C'est toujours... La décision, elle reste toujours humaine.
Donc, les 1 million de CV sont lus. Il n'y en a aucun qui part à la poubelle sans avoir été lu par un humain.
Non seulement, il n'y a aucun CV qui part à la poubelle, mais en plus, dans notre database, on a 7 millions de CV aujourd'hui. Donc, quand vous postulez à un job chez L'Oréal, soit effectivement vous êtes, dans le meilleur des cas, invité à un entretien ou à un assessment center, soit vous êtes connecté effectivement à une des solutions d'intelligence artificielle pour rentrer dans un processus, soit vous recevez une réponse négative. Mais à partir du moment où vous postulez, vous recevez une réponse.
Vous considérez que les candidats sont potentiellement des consommateurs, donc il faut leur faire une attention particulière. Mais c'est quoi le petit plus pour rentrer chez L'Oréal? Il faut connaître le groupe par cœur, toutes les marques. C'est quoi qui permet de faire la différence?
Non, le petit plus, je vous dirais, en tout cas, nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est des personnalités. C'est des gens qui ne se ressemblent pas, c'est des gens qui ne pensent pas pareil. C'est ça qui va apporter la richesse dans les équipes. Il y a beaucoup de stéréotypes parfois. Quand on se dit, voilà, on postule chez L'Oréal, on a beaucoup de stéréotypes en tête. On pense que L'Oréal, on recrute que dans les métiers du marketing, on recrute que des femmes, on recrute que des gens qui sont passionnés par la beauté. C'est complètement faux. On recrute des femmes et des hommes. On recrute, alors, le marketing, c'est 5% des effectifs de L'Oréal. Alors que les opérations, c'est 22%, le commerce, c'est 48%. Donc, et le marketing, c'est 5% des recrutements. Donc il y a beaucoup de...
Comme dans n'importe quelle boîte, en fait.
Et pareil, on pense souvent qu'on a besoin d'être passionné de cosmétiques. Non, on n'a pas du tout besoin d'être passionné de cosmétiques.
Non, mais la connaissance de la marque joue quand même.
La connaissance de la marque et encore. Nous, on a besoin de gens qui sont passionnés, ça c'est sûr, mais pas forcément par les cosmétiques. C'est pour ça qu'on recrute souvent des gens qui ne viennent pas de l'univers des cosmétiques.
En termes de sourcing, quelle est aujourd'hui la place du cabinet de chasseurs de tête, la place de LinkedIn? Est-ce que ça a changé vraiment fondamentalement votre sourcing?
Oui, ces dernières années, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le direct sourcing, c'est-à-dire donc essentiellement LinkedIn, c'est près de 40% des recrutements.
Ah oui.
Ouais, comparé à ce qu'on va appeler donc cabinet de chasse et agence de recrutement, c'est 8% aujourd'hui. Donc ça a beaucoup baissé ces dernières années. De là à vous dire qu'on peut se passer des chasseurs, non, c'est pas vrai. Mais disons qu'on a des recruteurs en interne qui sont capables tout seuls d'avoir accès à tout un tas de candidatures très talentueuses.
Vous-même, vous êtes sur LinkedIn ?
Je suis sur LinkedIn.
Vous l'utilisez, vous répondez ?
Absolument.
Vous y passez combien de temps à peu près par jour ?
C'est plus par semaine, parce que je vais pas toujours avoir le temps par jour, mais en tout cas, c'est minimum 2 heures par semaine, je dirais, sur LinkedIn.
Donc quand même, et vous répondez, hein, si on vous
contacte.
Je vais vous écrire sur LinkedIn, je vais vérifier. La candidature spontanée, ça fonctionne toujours ou c'est en perte de vitesse ?
La candidature spontanée, c'est quand même en perte de vitesse. On va toujours essayer de conseiller le candidat. Par exemple, quand on rencontre un étudiant sur un campus qui est attiré par l'oral, mais c'est pas trop dans quelle direction aller, on va essayer quand même de l'orienter.
Le rehiring, c'est-à-dire le salarié boomerang, celui qui sort de chez L'Oréal, qui va aller faire quelques années ailleurs et potentiellement peut revenir, ça se développe beaucoup chez vous ?
Ça s'est développé, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant, qui se fait de plus en plus. C'est quand même,
on partait comme un traître, comme dans toutes les boîtes.
Effectivement, l'image a changé, mais en tout cas, enfin, c'est sous certaines conditions. Hein, déjà, il faut que la personne regrette d'être partie, hein, j'espère quand même qu'elle soit partie avec des regrets de L'Oréal. Il faut que nous aussi, on était triste de voir partir cette personne, donc c'est des départs regrettés, on va dire. Et puis, il faut aussi que la personne, qu'elle ait été développée des nouvelles compétences ailleurs. Donc, si on a ces trois conditions réunies, honnêtement, on ne va pas s'en priver. Moi, je cite souvent un de mes meilleurs amis chez L'Oréal, qui a quitté 2 fois L'Oréal et qui re-rentrait 2 fois chez L'Oréal. Une première fois pour monter sa start-up, une deuxième fois pour monter son business, une deuxième fois pour rejoindre une start-up. Et il est revenu 2 fois avec des super compétences à apporter à L'Oréal.
Et on l'accueille chaleureusement.
Et on l'accueille chaleureusement.
Vous avez 200 talents acquisitors dans le monde, donc 200 personnes qui cherchent des talents. Le recrutement à l'échelle mondiale, c'est quoi la place de la France ? Est-ce que c'est très différent quand on recrute en France ou finalement, maintenant, les talents sont mondialisés, il y a une concurrence globale ?
Il n'y a pas de concurrence au global. Donc déjà, vous avez une équipe centrale recrutement qui met en place la stratégie, la vision, la mission, la stratégie des recruteurs qui va les équiper avec les bons outils, etc. Ensuite, les pays, les recruteurs dans les pays, ils vont vraiment s'assurer que cette stratégie, elle est implémentée localement et puis elle est pertinente avec le marché local. On ne peut pas considérer que les candidats sont en concurrence, même si aujourd'hui...
Il y a le télétravail quand même.
Il y a le télétravail.
On peut travailler n'importe où. Donc non, vous ne pensez pas qu'on est en concurrence
mondialement ?
Non, pas
vraiment, parce que même s'il y a une forte extension du télétravail, et puis on ne fera pas exception évidemment à L'Oréal, on vient de lancer d'ailleurs un programme complètement revisité du télétravail qui s'appelle L'Oréal Remote, mais même à part ça, le télétravail vous le ferez dans le pays auquel vous êtes rattaché, pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons techniques, je ne vais pas rentrer en détail, fiscales, légales, d'assurance, etc. Mais aussi parce que la vision, la culture de travail à L'Oréal, on ne va pas promouvoir le 100% télétravail. Évidemment, sauf
on s'adapte, mais c'est pas prévu.
Mais c'est pas la vision, parce qu'on est très attaché à la proximité physique avec les équipes, donc ce sera toujours des solutions hybrides avec de la mixité entre du bureau et du télétravail.
Donc il y a des spécificités par pays. En France, c'est quoi la spécificité du talent français ?
C'est difficile. Je pense que c'est plutôt la spécificité des marchés. Tout va dépendre de quels sont les marchés en tension, par exemple. Quand vous cherchez des profils digitaux, des profils e-commerce, c'est sûr que quand vous êtes sur un marché qui est extrêmement tendu...
Il y a toujours une guerre des talents, hein, ça n'a pas changé.
Il y a toujours une guerre des talents, mais qui va revêtir une forme différente selon le marché et selon le métier. C'est très différent.
J'ai vu qu'il y avait sur votre site Marque Employeur 5 millions de visites par an. Ça veut dire que l'impact du site pour la marque est très important. Vous y avez construit une attention particulière. Il y a des gens qui travaillent vraiment sur ce site vitrine.
Oui, absolument.
C'est un média en fait, lui-même.
C'est un média en lui-même. C'est un des touchpoints, c'est sûr, très important. Mais on va pas. C'est pas le média. Le média, ça va être, je suis très honnête avec vous, ça va être les réseaux sociaux. Mmh. C'est le nerf de la guerre. Le site carrière, ça va être vraiment un moyen finalement d'approfondir la connaissance sur L'Oréal, mais ça va être essentiellement de la conversion. Hein. C'est comme un site de e-commerce. Ce qui doit se passer sur le site carrière, c'est surtout la candidature et faire avancer la candidature.
Vous allez avoir le droit au petit quiz de d'habitude. On va faire stop ou encore, mais spécial CV, puisque vous êtes dans le recrutement. Un CV sans photo, on garde ou on jette ?
On regarde, mais honnêtement, on s'en fout de la photo.
Pas de problème. Un CV sans lettre de motivation, ça passe ou pas ?
Oui, et d'ailleurs, on le recommande pas forcément, on le demande pas forcément chez L'Oréal.
Mais je rêve, vous allez passer bientôt au 100 CV chez L'Oréal. Alors, vous y réfléchissez.
On n'y est pas encore, mais honnêtement, comme je dis souvent, le CV n'est pas notre meilleur ami.
Trop de biais. Un CV vidéo, on regarde ou on jette ?
On écoute, on regarde pas.
Un CV avec des blagues, est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on jette?
On regarde, puis on voit si on se marre.
Ah ouais, vous êtes prête pour le CV Galette des Rois, le CV avec des ballons, tout ça?
Alors écoutez, on regarde, mais on va essayer de pas se faire trop influencer par l'originalité du format.
Mais c'est pas rédhibitoire.
Non, c'est pas
à un moment donné, c'est ridicule.
Non, c'est pas rédhibitoire. On va essayer de passer au-delà du format.
Un CV sur 2 pages pour un débutant, on regarde ou on jette?
On regarde, mais on va lui donner des conseils.
Un CV écrit avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on regarde ou on jette? Moi, je reçois, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'en reçois.
Écoutez, on regarde, moi, ça m'intrigue. On regarde, puis on va essayer de comprendre. Il y a peut-être une raison, il y a peut-être une explication. Moi, je suis curieuse.
Donc, vous dites, derrière le CV, il faut aller plus loin, même sur les postes de cadre, sur l'ensemble des postes?
Oui, sur l'ensemble des postes. En fait, un CV, alors, ça a toujours un... Pourquoi je vous dis, on n'est pas encore au sans CV? C'est parce que le CV, ça permet quand même de montrer une partie de sa personnalité. Hein. Un CV qui est bien fait, c'est un CV où vous arrivez à lire un peu la personnalité du candidat, bah, ce qu'il passionne, ce qu'il aime, ce qui le motive, etc. Et puis, c'est un CV qui est clair, quoi. Donc, c'est vrai que ça sert encore. Mais il faut que ce soit effectivement bien fait.
Merci beaucoup, Eva Azoulay, directrice du recrutement Monde chez L'Oréal, d'avoir été avec nous. Nous, on va passer à notre partie Better Together. On va parler psy un peu.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on est avec Eric Albert, psychiatre, coach de dirigeants et fondateur de YouSide. Bonjour Eric Albert.
Bonjour.
Merci de venir à nouveau dans Happy Boulot, le mag, faire un point sur l'état psychologique du monde du travail. Comment y va le monde du travail?
Il n'est pas à son top. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas à son top. On a d'une part les entreprises qui vont pas bien et où tout le monde est très inquiet. Et ce qui domine, c'est cette extrême inquiétude. Et on voit apparaître toute une série de perspectives, de plans et qui inquiètent tout le monde. Donc, et puis, celles qui ne sont pas directement impactées, la vie au travail confinée n'est pas la vie au travail qui permet de travailler de façon épanouissante, créative, collaborative, et de trouver de la satisfaction dans ce qu'on fait.
Il y a aussi cette question de long terme et de court terme. On a l'impression que là, les entreprises se disent « Bon, c'est parti pour durer, je vais m'organiser comme ça, cas à cas, pendant un an. » Ça, comment le vivent les salariés? Certains disent
« Mais justement, bien, pas d'autres. » La perspective que ça puisse durer un an paraît très 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 longue. N'oublions pas que le premier confinement, on savait que ça durerait quelques semaines, et tout le monde se disait en septembre tout recommence. Mmh. Et là, on arrive dans
tous les événements étaient prévus pour septembre.
Voilà, c'est vrai, ouais. Tout devait arriver en septembre, tout recommence. Et là, on se dit non, c'est juste intenable.
Pourtant, les managers, eux, sont habitués à prendre des décisions dans la tourmente. Vous les trouvez dans quel état?
Les dirigeants, c'est un peu différent. D'abord, les dirigeants, pour la plupart d'entre eux, ils vont au travail.
Oui, c'est vrai. J'ai toujours pas compris pourquoi le dirigeant allait au travail, lui particulièrement, mais...
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants sont plus souvent au travail. Moi, ce que je constate, c'est que les dirigeants se déplacent plus et sont plus souvent au travail que leurs salariés. Ensuite, le dirigeant, souvent, c'est quelqu'un qui aime la complexité, qui aime les situations de crise, qui aime les situations compliquées et qui, dans ces moments-là, au contraire, trouve un stimulus intérieur très fort pour prendre des décisions, pour faire bouger les choses. Et ce qu'il voit bien, c'est que c'est l'occasion, et c'est vrai, c'est l'occasion de faire bouger profondément un certain nombre de principes culturels des entreprises. Par exemple, les entreprises qui sont basées sur des cultures très territoriales, on se dit c'est le moment ou jamais de faire bouger la culture là.
Donc ils se sentent acteurs pour une fois.
Ils se sentent acteurs et comme toujours un bon dirigeant il voit de l'opportunité dans la crise et donc il saisit vraiment toutes ces opportunités.
Et ils aiment cette responsabilité parce que dans cette crise sans cesse on parle de responsabilité individuelle vis-à-vis du virus. On cherche des responsables partout, des directives. Le manager il aime bien cette tension là.
Alors attention sur la responsabilité. Le manager il adore être responsable parce qu'il a de l'autonomie et de la marge de manœuvre. Quand on dit aux gens « soyez responsables » et qu'on leur donne aucune autonomie, c'est pas de la responsabilité, c'est un contresens. C'est de la discipline. On vous demande d'obéir. Ne mélangeons pas les deux.
Pas confondre responsabilité et l'obéissance.
Tout le monde peut avoir envie de se sentir responsable s'il a de la marge de manœuvre. S'il peut choisir, s'il peut décider de faire des choses ou pas. Mais si on vous dit, vous avez aucune marge de manœuvre, c'est ça qu'il faut faire. Non, ça, c'est évident que la responsabilité, c'est pas de la responsabilité, c'est de l'obéissance.
Donc c'est toute la question de la confiance dans les entreprises. On pensait avoir passé une étape avec le confinement, en disant on est bien obligé de faire confiance, on n'a pas le choix. On est revenu en arrière, on est.
Alors, on a appris un peu plus à travailler à distance. Alors après, il y a tout, comme toujours dans le management, faut pas se tromper, le management, c'est toujours l'émotion du manager qui domine. Donc vous avez des managers qui sont très insécures quand ils maîtrisent pas tout. Et là, pour leurs collaborateurs, c'est un enfer parce qu'ils surcontrôlent, parce qu'ils ne les ont pas sous la main. Mais la plupart des managers qui ne sont pas aussi anxieux et inquiets vont pouvoir utiliser ce moment particulier dans lequel ils vont tenter la confiance. Et ils vont tenter, derrière la confiance, alors là, on va être beaucoup plus dans je regarde ce qui a été fait, je demande des comptes sur ce qui a été fait. Et non pas je te dis à l'avance tout ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, et à tout moment, et je réponds à toutes tes questions, je te laisse avancer par rapport à ton questionnement, et je t'encourage à trouver tes propres solutions. Donc, on va aller de plus en plus vers ça, mais ne nous trompons pas. Le jeu collaboratif à distance n'est pas le même. On peut faire plus confiance dans la relation hiérarchique, dans la relation horizontale, travailler plus en collaboratif, travailler en élaboration à plusieurs.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on pouvait être un bon manager avant et que le télétravail peut nous révéler être un mauvais manager?
Oui, il y a beaucoup de managers qui étaient en command and control. Qui obtenait des tas de résultats qui étaient très confortables dans ce modèle-là.
Et là.
Et qui d'un seul coup se révèle totalement dysfonctionnel dans le contexte, bien sûr.
Il y a les salariés qui voudraient retourner au boulot 1 à 2 jours, et puis il y a ceux qui sont très contents d'être confinés. Est-ce que c'est mal d'être un salarié confiné heureux? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se poser des questions sur son entreprise?
Je pense que c'est surtout l'entreprise qui doit se poser des questions. Parce que finalement, être chez soi mieux qu'au boulot, tout va bien. Travailler chez soi mieux qu'au boulot, là, je commence à me poser des questions. Si mes collaborateurs préfèrent travailler chez eux qu'au boulot, soit les conditions de travail sont dégueulasses, enlevons la question des transports, soit les conditions de travail sont très mauvaises, soit l'ambiance au travail est mauvaise, soit je ne trouve pas d'éléments dans le fait de travailler avec les autres qui m'épanouissent. Et là, il y a une question absolument considérable pour les entreprises qui, quand elles voient que des taux de 30, 40%, voire plus de gens préfèrent rester chez eux que d'aller au travail, ça veut clairement dire que le cadre de travail, le mode de management, l'ambiance au travail doit être pensé. C'est très simple, parce que ce qu'on dit aujourd'hui sur les lieux de travail, c'est que ça doit être tellement agréable d'aller au travail que le dimanche, ça doit nous manquer. Je suis pas.
Donc il faut le bon manager, c'est celui qui a ses salariés qui disent je voudrais revenir, est-ce que je peux revenir jeudi, est-ce qu'on peut.
Le cadre.
C'est un élément d'évaluation.
C'est pas un élément d'évaluation, c'est un élément d'évaluation pas du collaborateur, c'est un élément d'évaluation
de l'ensemble de l'entreprise.
Et les entreprises qui se réjouissent. Du fait que les gens sont contents de rester chez eux et qu'ils se disent on va faire presque que du télétravail comme on fait beaucoup dans les entreprises anglo-saxonnes, full time télétravail, certains le sont depuis mars. Je pense que elle se prépare des suites très compliquées dans comment je fais communauté, comment je donne envie aux gens j'ai de l'affection sociétatiste, j'aime mon entreprise, comment je construis, comment je donne. Parce que dans le travail, on donne pas seulement du temps, on donne de l'énergie, on donne de l'émotion, on donne de l'envie. Et si je donne pas ça et que je suis juste chez moi à être un pur producteur, on va perdre énormément de la capacité des collaborateurs.
C'est-à-dire que pour tout ça, il n'y a pas d'autre choix que de se voir à un moment et de se réunir.
Oui, et d'être ensemble, de se voir, de se réunir, d'être dans l'informel. L'informel est fondamental. Je croise quelqu'un, et là-dessus, il y a de l'aléa. Je croise quelqu'un auquel je ne pensais pas croiser. Ah tiens, je voulais te dire.
Voilà. Je t'aurais pas fait un mail, mais si je te crois, je te le dis.
Voilà. Je suis à la machine à café, je discute avec un tel. Ah bon, je savais pas ça. Et la vie est faite aussi de ces aléas, de cet informel, de ce sourire. On a.
Et oui, mais les moments de convivialité, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, nous l'a dit clairement, ce sont ceux qui sont interdits. On va continuer dans Happy Boulot à essayer de trouver des solutions pour garder ces moments de convivialité. Merci beaucoup, Éric Albert, d'avoir été avec nous et
merci
à bientôt.
À vous, à bientôt.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business case.
Et je le disais à l'instant, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, nous a prévenu, les moments de convivialité en entreprise sont interdits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même garder ce contact avec les autres salariés? On est avec Renaud Seligman. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez inventé le bar virtuel. Comment ça marche?
On a inventé le social bar 2.0. Et ça marche comme un bar. Alors, vous venez sur un Zoom, par exemple. Et il y a des tenanciers qui vous accueillent et qui vont vous proposer plein de petits jeux qui sont participatifs, qui sont décalés, qui sont drôles et qui sont là pour créer un peu de fun, pour lutter un peu contre la morosité et remettre un peu de chaleur dans ces moments à distance qui sont en général un petit peu morose.
Donc la différence avec un Zoom classique, on ferait une conférence call avec ses collègues, c'est le décor, c'est le contexte en fait. Vous avez imaginé des décors différents.
C'est le décor, c'est nos tenanciers, donc ils sont formés à animer, à séquencer, à rythmer, et qui sont des comédiens. Donc on invente des personnages, c'est les jeux qu'on a inventés, et c'est tous nos petits rituels de convivialité qu'on déroule tout au long de la séquence et qui font que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise, participe beaucoup plus.
Donc il y a un animateur comme dans un team building classique qui lui doit vous amener sur un certain nombre de sujets.
Il y en a même deux ou trois. Le but c'est que on est dans de l'informel, on n'est pas sur des sujets professionnels et des sujets sérieux, on veut offrir des occasions de respiration aux collaborateurs des entreprises. Et pour ça du coup on leur offre plein de petites séquences de jeux.
Alors il y a quoi par exemple comme jeu?
Alors, par exemple, comme jeu, on va vous proposer le social chef-d'œuvre. Et vous allez tous ensemble reproduire un chef-d'œuvre collectivement sur un tableau blanc virtuel. On
D'accord.
va aussi vous proposer, par exemple, de faire la social chorégraphie. Et vous allez reproduire la chorégraphie d'un des collaborateurs qui va danser depuis sa chaise sur une musique qu'on aura lancée.
Ah oui, donc vous recréez vraiment la soirée comme elle pourrait
se passer dans un
c'est
bar.
C'est l'happy hour, quoi.
Et exactement, comme ça se passe dans un bar, comme ça se passe dans notre bar, qui est le social bar, et qui est un bar où on a inventé plein de choses pour casser les barrières psychologiques et culturelles qui font que les gens, ils ont de plus en plus de mal à se parler, à se rencontrer, à se lâcher un peu.
Vous avez un vrai bar?
On a plusieurs vrais bars.
Et alors du coup, c'est quoi? C'est votre démarche? C'est une nécessité économique? C'est la digitalisation de votre activité? C'est quoi?
C'est plusieurs choses. C'est que quand on était en confinement, eh ben, nous, notre cœur de métier, c'était l'événementiel et c'était le bar. Et c'était la convivialité. Comment on crée de la convivialité dans nos espaces? Et on a vu qu'il y avait un problème. Le problème, c'était la distance physique, le fait qu'on soit derrière deux ordinateurs. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a créé le Social Bar 2.0, et qui je pense répond à un vrai besoin de société pour les entreprises, qui est comment on maintient du lien humain, du lien chaleureux, du lien joyeux.
L'invité juste avant disait, il faut absolument de l'informel entre les salariés, le truc, puisque je te vois, je voulais justement te dire, c'est ça qu'on peut faire encore sur votre plateforme?
On peut aussi faire, puisque dans nos sessions, elles sont conçues pour qu'il y ait des jeux, mais qu'il y ait aussi des moments de discussion à deux ou trois, dans des petites salles obscures du social bar. Et à ce moment-là, effectivement, c'est des occasions de liens informels. Mais le but, c'est principalement de détendre les gens, de leur ouvrir des moments où ils peuvent se rencontrer. Parce qu'il y a aussi des gens qui intègrent l'entreprise.
Ah bien sûr. Et là, c'est très compliqué.
Et là, c'est très compliqué.
Mais il y a toujours un problème quand vous allez au bar, c'est quand il y a le chef qui ramène sa fraise. Et du coup, ça gâche les conversations informelles. Là, vous êtes embauché, j'imagine, par les directions qui disent c'est un truc sympa que je vais mettre en place dans mon entreprise. Donc, vous êtes un peu vendu au chef. Alors, comment on fait pour se détendre complètement si c'est formel quand même?
Alors, on n'est pas vendu au chef. Le principe, ce qu'on leur vend justement, c'est de dire offrez à vos collaborateurs un vrai moment de détente. Et ce qu'on propose
tranquille,
même au chef,
sans vous.
Ce qu'on propose même au chef, c'est de passer derrière le comptoir avec nous. Et là, je peux vous dire que quand ils passent derrière le comptoir virtuel
ça gâche l'ambiance.
Mais pas du tout. Au contraire, ils sont très détendus. Ça détend. Ça casse l'image du chef. Et les deux, trois fois où on l'a fait, je vous jure que ça a eu un impact extraordinaire.
Vos barman allaient transformer en animateurs? Vous les avez formés
Non, c'est nous qui animons la soirée. Mais en fait, symboliquement, ils passent derrière le comptoir. Ils font deux, trois vannes de temps en temps. Et on casse un peu l'image du chef, de la barrière hiérarchique. Et justement, c'est l'inverse qui se passe. C'est que les gens sont plus détendus.
Merci beaucoup, Renaud Seligman, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. l'émission qui vous sort de votre boîte.